France Culture.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
Les rues étrangement calmes, de la distance dans les files d'attente devant les boulangeries ou les supermarchés. La France est donc entrée ce midi en confinement, l'un des plus stricts d'Europe,
vidé,
d'après le ministre de l'Intérieur.
Confiné et masqué. Depuis ce midi, on a croisé très peu.
Dans le Grand Est, la région la plus touchée, les médecins parlent de médecine de catastrophe. Les services de réanimation sont déjà saturés.
La SNCF a observé un pic de réservation de dernière minute vers l'Atlantique ou la Bourgogne.
Premiers essais aussi de chloroquine contre le coronavirus. Essais menés à Marseille sur 24 patients.
Oui, et c'est le professeur Didier Raoult qui est à l'origine
COVID-19,
de cet essai, spécialiste des maladies
infectieuses à Marseille.
Une pandémie
sans fin.
Il avait fin février,
un documentaire de Christelle Le Polothèque et Véronique Samoïlov. Deuxième épisode, le confinement.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, au vu des premiers résultats,
du jour au lendemain, plus personne dans les rues. Il y a ceux qui ont réagi très vite et qui sont partis dès les premiers jours à la campagne ou à la mer, et ceux qui ont passé le confinement à la maison sans bien savoir ce qui les attendait. Et puis il y a les autres, ceux qui ont continué à se rendre sur leur lieu de travail dans des villes désertes. Les premières lignes, les caissières, les aides à domicile, les éboueurs, les livreurs, et bien sûr, tous les soignants, à l'image de Céline Lejeune, urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Nous, on est préparés, hein. On a des plans qui sont dans les bureaux de la direction, on a des directeurs médicaux de crise, donc on est parés à plein de situations, mais qui restent complètement abstraites. Et puis là, c'est la première fois qu'on se retrouve confronté à une crise sanitaire comme celle-là, une pandémie, hein. Au début, même nous, on ne savait pas.
La question du confinement, elle devenait absolument indispensable. Et encore une fois,
François Crémieux,
l'alternative au confinement, ça aurait été que de mi-mars à fin avril, il y aurait eu probablement un très grand nombre de patients qui seraient décédés dans des conditions dramatiques, dans des services d'urgence, sur des brancards ou ailleurs, par impossibilité de les mettre sous oxygène.
On avait peur pour nous, on avait peur pour les patients, on avait peur pour nos proches. Je pense qu'on ne s'est même pas posé la question si c'était bien ou pas bien. Nous, on s'est dit que c'était vraiment au départ dans un but pour protéger les gens, sans finalement imaginer que ça allait durer et toutes les conséquences que ça allait avoir, en fait. Mais c'était un peu la panique, hein, quand même. C'était un peu la panique.
Dans ce climat on ne peut plus anxiogène, le 18 mars, le journal Libération publie une lettre de l'italienne Francesca Melandri. Je vous écris depuis votre futur. Mais c'est tellement horrible que personne ne veut y croire. Finalement, avec le recul, cela ressemble assez bien à ce que nous avons vécu. Mais toute la difficulté dans ces premiers jours de confinement, c'est d'assimiler ce basculement brutal entre une vie quasi normale et un confinement tel qu'on n'en avait jamais connu. Comment a-t-on pu passer d'un dimanche d'élection ensoleillé à la mise sous cloche d'un pays tout entier ? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait le choix de maintenir le premier tour des élections pour nous confiner jusqu'à nouvel ordre dès le lendemain ? C'est la question que nous avons posée à Raphaël Baquet, journaliste au Monde.
En fait, c'est le « en même temps » d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on maintient une élection qui peut être un danger et en même temps, on décide un confinement archi-radical. D'ailleurs, il a raison de décider ce confinement, mais il aurait dû le faire avant. C'est bien le problème. D'ailleurs, tout ne repose pas sur la personnalité d'Emmanuel Macron, mais un peu quand même. C'est-à-dire l'idée qu'à lui seul, il va pouvoir décider de quand on considère que l'épidémie est dangereuse et de quand on lève le pont-levis, eh bien, c'est une forme de toute puissance, si vous voulez, qui est un peu dépassée, à vrai dire, avec le recul quand on voit où on en est. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, à sa décharge, il y a à l'époque de multiples voix contraires. Il y a les scientifiques, bien sûr, mais eux-mêmes ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y a les politiques, il y a les chefs d'entreprise, encore une fois, qui jouent aussi un rôle, hein, parce que tout le monde a peur de l'arrêt de l'économie aussi. Et donc, c'est avec ces multiples voix contraires que le président prend cette décision qui paraît si radicalement étonnante.
Le confinement est une mesure de santé publique qui n'était prévue dans aucun plan de préparation en pandémie.
Frédéric Keck, anthropologue.
Les historiens de la santé publique l'ont dit, hein, et les épidémiologistes l'ont confirmé, personne n'avait prévu qu'on puisse confiner 5 millions de personnes pour contenir un virus qui émerge dans une grande ville au centre de la Chine. Les autorités de Wuhan l'ayant fait, ça ouvrait un champ à l'expérimentation politique que les États européens ont suivi plus ou moins, d'ailleurs. Hein. On a vu que selon qu'ils étaient plus ou moins libéraux ou autoritaires, ils se sont dit « bon, ben, on essaye », ou au contraire, on le fait pas. Bon, la Suède ne l'a pas fait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une énigme pour les historiens de l'avenir. C'est comprendre dans quelles conditions les autorités de Wuhan, ayant échoué à contenir le virus de la Covid, ont décidé de confiner 5 millions de personnes.
Et il y a eu un flottement dans cette période des 3 semaines de mars sur comment se transmettait le virus.
Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique.
Par ailleurs, nous, on a découvert que le nombre de masques était en quantité relativement limitée, qu'on était capable d'avoir, dans un premier temps, autour de 5 000 ou 10 000 tests par jour, alors qu'il en fallait énormément plus. Donc, avec un certain nombre de moyens limités, une absence de médicaments, eh bien, la seule façon de bloquer les choses, était de limiter le nombre de nos contacts. Et pour limiter le nombre de nos contacts, il fallait confiner.
Est-ce que la population allait suivre ou n'allait pas suivre? Personne ne le savait, elle a plutôt suivi. Mais enfin, ce n'était pas gagné, et ça renvoie aussi au statut du recours un peu inhabituel, malgré tout, heureusement, des mesures contraignantes, en fait.
Daniel Benamouzing, sociologue.
Un recours à l'obligation qui rend typiquement ce genre de décision extrêmement pesante, extrêmement difficile. Donc on comptait beaucoup sur cette forme de responsabilité, en faisant un pari justement sur la raison, sur la raisonnabilité un petit peu des uns et des autres, en étant aussi conscient que ces émotions de peur, de crainte, d'angoisse étaient aussi un facteur qui allait peser dans les comportements des uns ou des autres. Mais je dois dire qu'on était face à l'inconnu en réalité. Et donc il y a une dimension de pari. C'est vrai qu'il y avait une part d'inconnu et donc qui a pesé sur chacun d'entre nous de manière très très angoissante aussi.
Notre rôle, nous, au Conseil scientifique, était de faire des recommandations et il était clair que c'était au gouvernement de décider.
Arnaud Fontanet, épidémiologiste.
Si vous reprenez l'avis du Conseil scientifique dans sa deuxième page du 12 mars 2020, la première rencontre qu'on a eue avec le président de la République, vous verrez que nous disons, alors là c'est des épidémiologistes qui parlent, il faut réduire de 60% les contacts au sein de la population pour casser cette courbe épidémique. Mais on écrit, d'autres méthodes, moins contraignantes, pourraient suffire, mais elles demandent une très forte adhésion de la population. C'est en gros ce qui s'est passé dans les pays scandinaves. Et nous écrivons, c'est aux politiques de décider entre les deux.
Mais honnêtement, vous n'avez pas été surpris quand le président a accepté ?
Écoutez, non.
Jean-François Delfrécy.
Non, parce que si c'était seulement la France qui avait décidé de confiner, on aurait pu dire, là, pourquoi il y a la France qui confine? Pourquoi il y a un certain nombre de scientifiques qui croient avoir maintenant les roues?
Mais ça, je me demandais justement si c'était aussi votre responsabilité, oui. En tout cas votre choix. C'est le caractère strict du confinement, oui. Notamment les attestations, l'interdiction d'aller...
On ne rentre pas là-dedans.
Ça, vous êtes...
On rentre... Non, il faut bien séparer. On est un conseil scientifique. On est 13-14 personnes, puis 3 ou 4 personnes supplémentaires. Nous n'avons pas géré l'ensemble des modalités. Il y a un ministre de la Santé, il y a des directions générales de la Santé, ce sont à eux de prendre les mesures opérationnelles. Donc on est là pour donner des grandes directions au plus haut niveau politique, ce qui est nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas au niveau du ministère de la Santé, c'est vraiment un dialogue entre le Conseil scientifique et le président de la République ou le Premier ministre, c'est à ce niveau-là que ça se situe, pour donner les grandes directions, qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, hein, mais on n'est là pas pour rentrer dans le détail. Et il y a un certain nombre ensuite de mesures opérationnelles où j'ai été comme tout le monde. Il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses que j'ai moins bien compris.
Se promener librement dans les rues, depuis une heure, c'est interdit.
17 mars 2020.
Pour circuler, il faudra désormais se munir de ce sésame, une attestation de déplacement. On peut la télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ou la recopier sur papier libre. Avec elle, vous pourrez circuler mais seulement sous certaines conditions. Vous déplacer de votre domicile à votre lieu de travail uniquement si le télétravail n'est pas possible. Faire vos achats de première nécessité comme les courses alimentaires, mais aussi vous rendre à un rendez-vous médical.
Nicolas Mariou, vous êtes sociologue et auteur avec Théo Boulakia du livre « L'attestation, une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020 ». C'est ce que vous avez immédiatement perçu dès l'annonce du confinement par le président Macron ?
Ah oui, très clairement, j'ai été frappé dans la seconde, en quelque sorte, dès qu'on a mis en place l'attestation. Je me suis dit, c'est quand même fou, cette idée de nous demander, de nous autoriser nous-mêmes à sortir dehors. Et au début, l'attestation était pensée un peu comme quelque chose, comme une attestation sur l'honneur. Je me disais, tiens, c'est étonnant quand même comme politique, comment ils ont décidé ça. Et puis comme je travaille depuis longtemps sur les questions d'obéissance, de conformisme, pourquoi on se plie aux obligations d'État, etc. Je me suis dit, bah tiens, là, il y a une occasion vraiment grandeur nature tout à fait rare pour essayer de réfléchir à ces questions.
La consigne est très claire, restez chez vous. Et pour faire respecter cette règle, un dispositif exceptionnel est mis en place.
Il reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes.
On peut avoir une lecture de l'obligation comme étant une mesure de contrainte. En réalité, on n'a, je crois, jamais pensé qu'on pourrait contraindre la population à quelque chose auquel elle n'adhérait pas.
Daniel Benamouzing.
Si la population n'avait pas suivi le confinement, il n'y avait pas les moyens, et notamment au ministère de l'Intérieur, pour mettre un policier derrière chaque citoyen français, en le contraignant à ne pas sortir. C'est pas ce qui s'est passé, parce que l'obligation, c'est des choses qu'on connaît aussi un peu en sociologie, c'est aussi une forme de norme qu'on définit. C'est une normalisation d'une situation et c'est un signal assez fort en fait sur le fait que les pouvoirs publics, à un moment donné, s'engagent dans une obligation pour traduire le fait qu'ils ont une certitude sur le fait que c'est plutôt ça qu'il faut faire plutôt qu'autre chose. Donc ça renvoie aussi à une forme de rapport à une dynamique collective rapide, à un rapport à la confiance, etc. Et si ce signal-là n'est pas reçu comme tel, il n'y a aucun moyen en réalité de contraindre la population de faire ceci ou cela. Donc c'est ce qui rendait d'autant plus important la dimension adhésion au-delà des dimensions contraintes, et les deux allant de pair.
Pour le moment, cette période de confinement a été fixée à une durée de 15 jours.
Comment est-ce que le gouvernement, et en l'espèce le ministère de l'Intérieur, a eu l'idée de mettre en place cette attestation ?
Nicolas Mariou.
Dans des délais extrêmement serrés, hein, puisque en fait, en 24-48 heures, il décide très largement de l'ensemble des règles qui seront en place. Et en fait, grâce au travail des journalistes, là, en l'espèce ceux de Libé de mémoire, hein, on sait que l'attestation française est entièrement copiée sur l'attestation italienne, avec quelques modifications, mais finalement pas tant que ça. Il faut avoir à l'esprit qu'au début, hein, c'est quelque chose comme une attestation sur l'honneur. Dans les premiers jours, entre le 16 et le 23 mars, quand l'état d'urgence sanitaire est mis en place, on n'est pas obligé d'horodater. Donc on pourrait dire, le gouvernement fait confiance aux gens, leur propose d'engager leurs responsabilités en leur faisant confiance quant au fait qu'ils respecteront les règles de l'heure, du kilomètre, qu'on leur propose de ne pas sortir 50 fois, etc. Et tout change à partir du 23 mars, donc 2020, à partir du moment où l'attestation désormais horodatée. Il faut marquer la date et l'heure de départ surtout. À ce moment-là, ça devient donc non plus un instrument d'engagement de sa responsabilité entre les mains des citoyens, mais plutôt un instrument de vérification donné à la police pour pouvoir vérifier que les gens n'outrepassent pas les règles. Et ça montre vraiment une perspective très grande de transformation qui oppose en gros la France et ses voisins du sud de l'Europe, au pays du Nord, où là, il n'y avait pas d'attestation la plupart du temps, enfin même jamais d'attestation, hein, et où les règles de sortie étaient beaucoup plus libres. Ce qu'ont fait les pays du Nord de l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Scandinavie, etc., c'est évidemment interdire les rassemblements, quels qu'ils soient, fermer les bars, restaurants, enfin empêcher en gros les rassemblements de foule. En revanche, vous pouviez vous promener aussi longtemps que vous le vouliez, etc., etc. Il n'y avait pas de problème. Même dans certains pays, comme en Suisse, en Pologne, en Autriche, on pouvait aller carrément faire des balades dans les Alpes, longues, etc. Elles étaient plutôt déconseillées, mais pas interdites. Bon, ça, ça représente une différence fondamentale par rapport au cas français et ses voisins italiens, espagnols, où c'était encore plus dur, même si en Espagne, il n'y avait pas d'attestation. On est les seuls à en avoir une avec Chypre et la Grèce.
Est-ce que vous, Aurélien Rousseau, donc en plus en tant que député aujourd'hui, est-ce que vous savez qui a fait le choix de l'attestation, qui a fait le choix du rayon de 1 km ? Vous étiez impliqué dans ces questionnements ?
Oui, enfin impliqué soit directement, soit avec une très grande proximité, mais le plan est la première victime de la guerre. Donc en fait, quand vous avez une catastrophe, généralement, quelque chose a été planifié pour les premières heures de cette catastrophe. Mais très vite, on était dans l'inconnu. Et donc, un confinement généralisé, les attestations, savoir ce qu'il devait y avoir écrit dessus, les périmètres, etc. Tout ça, quand on le regarde avec quelques années de recul, on se dit, il y a des mecs qui ont réfléchi, ou des nanas qui ont réfléchi 1 km, etc. Bah, pas du tout. On a jeté sur le papier et on a adapté en fonction. Vous vous rappelez, tout d'un coup, il y a eu la révolte des joggeurs, des libraires, des trucs, etc. Oui, au début, on lance une règle générale et puis on en assure la modiation pour qu'elle corresponde un peu plus. Et oui, les confinements suivants étaient un peu plus sophistiqués que le premier. Le confinement, moi, je peux témoigner de ça. Il est décidé le 17 mars. On nous dit qu'il va falloir entre 15 jours, entre 2 semaines et 3 semaines pour qu'il porte ses effets. Moi, dans la nuit du 31 mars, du 1er avril, nous passons, avec Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, des nuits à pleurer, parce qu'on se dit qu'on ne va pas tenir, que le système de santé va s'effondrer. Et pourtant, on voit les chiffres qui refluent, on voit les premiers effets du confinement. Et oui, le confinement produit ses effets dans les premiers 2 avril, on a le plateau, et on tient, et le système de santé ne s'est pas effondré. Et tous ces gens en réanimation, rappelons-le, hein, il y en a la moitié qui meurent en réanimation hein, à cette époque-là. Ça ne pouvait pas être la variable d'ajustement, la réanimation. Avec le recul, certains disent il suffisait d'avoir 5000 lits. Mais 5000 lits de réa, ça voulait dire donc qu'on acceptait que la moitié de ces gens meurent à régularité. Voilà, donc on a coupé la transmission de l'épidémie. Voilà.
Alors nous, c'est un service d'urgence. Hein. C'est vrai qu'on a un peu changé notre façon de travailler parce que on avait aussi cette présentation un peu clinique du Covid qui n'était pas comme les autres pathologies respiratoires.
Céline Lejeune.
C'est-à-dire que le patient qui avait le Covid, en fait, on ne le voyait pas. Il n'avait pas ces signes-là. Nous, on avait appris à les reconnaître. On les voyait passer la porte des urgences. On savait que lui, il allait être grave et que probablement, il allait décéder. On n'avait vraiment que ça comme passion. On le voyait arriver avec les pompiers et on se disait « Oh là là, lui, dans 30 minutes, il est en réanimation et il va décéder. » Et ça, ça a été hyper difficile. Ça a changé un petit peu notre façon de faire. On n'était pas habitués. Donc, on a évidemment tout réorganisé. Hein. On a fait des plans, on a revu tout notre circuit des urgences.
Et c'était quoi ces signes ? Pourriez-vous les décrire ?
Le patient venait avec la fièvre, il était fatigué, il n'était pas bien. Et puis en fait, souvent, il n'avait pas ce qu'on appelle nous les signes de lutte en médecine, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une fréquence respiratoire très élevée. Et par contre, quand on mesurait sa saturation avec nos appareils de mesure, il avait une saturation très basse, qui nous dit qu'il a besoin de beaucoup d'oxygène. Et d'habitude, on a quand même des signes avant-coureurs. Et souvent, on avait une discordance un peu entre la gravité de la maladie et la clinique du patient. Enfin, ça a été hyper dur.
Il n'y a pas de fonds ici. Donc, elle m'a dit de vous installer dans les fauteuils.
J'allais le soir dans les réanimations, aux urgences, voir les radiologues, voir les personnes au standard. Voilà, toutes les personnes, en fait, les infectiologues, bien sûr, les gens qui accompagnaient les fins de vie. Pour qu'ils tiennent en fait, pour qu'ils tiennent moralement. Voilà, c'était ma fonction pendant le Covid.
Philippe Nuss, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine.
Et puis après, surtout pendant le Covid, j'ai continué à garder l'activité clinique. Hors de question pour moi de laisser tomber les malades.
Il y a eu l'annonce du confinement, évidemment, mais vous avez ressenti, auprès du personnel ou parmi vos patients, une anxiété?
Ben, c'est-à-dire que le confinement, pour moi, ça n'a pas été un épisode tellement marquant. C'était plutôt, dans le fond, la question de la propagation, de l'impossibilité à empêcher cette propagation, et la question des morts. Et dans le fond, les gens ont assez bien accepté le confinement, dans un premier temps. Ça paraissait logique.
La pénurie des masques, Sibeth Ndiaye. Entendez-vous la grande colère des enseignants, des policiers, des salariés des grandes surfaces, des éboueurs? Rien que pour le personnel soignant, il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmiers, infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés, etc., etc. Où sont ces masques?
20 mars 2020.
Alors, il faut reprendre depuis le début. Nous avions un stock d'État de masques de 1 milliard de masques chirurgicaux et de 600 millions de masques FFP2, les fameux masques bec blanc. À partir de 2011, c'était donc après la grippe H1N1, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stocks de cette nature parce que les
on
moyens
avait fait
de
production des stocks de masques importants quelques années avant au moment de la crise
François Crémieux,
H1N1,
ancien directeur de l'ARS.
Et puis ces masques ont été stockés, j'étais à l'époque directeur de l'Hôtel Dieu, on avait des palettes et des palettes de masques et puis ces masques avaient une date de péremption et on se souvient tous avec beaucoup d'ironie que la date de péremption était liée à la péremption des élastiques. Que les élastiques cassaient quand on mettait les masques. Et donc, effectivement, les masques étaient plus utilisables. Et donc, on avait détruit une bonne partie de ces stocks de masques parce qu'ils étaient périmés quelques années avant. Mais donc, effectivement, il y a eu cette préparation manquée en amont et avec ces questions de stocks de masques. Mais pour ce qui est des hôpitaux, c'est également vrai des stocks de blouses. On a manqué de blouses et tout le monde l'a vu quand brusquement les gens se sont mis à se confectionner des blouses avec des sacs poubelles, etc. Et puis comme le monde entier a demandé les mêmes produits en même temps, il y a eu pénurie. Donc tout ça renvoie aux conditions de préparation de la crise et effectivement à des erreurs qui ont été commises, mais qui sont des erreurs commises à l'échelle mondiale par à peu près le monde entier en même temps et qu'on essaye aujourd'hui d'anticiper pour l'avenir.
Mais attention, il faut que ce soit des masques qui soient aux normes AFNOR, des masques chirurgicaux. Donc, c'est pas si
tous les équipements de protection, oui, on a été en manque. Hein. On s'est habillé en sac poubelle, c'est vrai. Hein, c'est pas, on l'a fait dans un CHU parisien. On a eu des tenues qui changeaient tout le temps, des sacs poubelles, des espèces de grandes manchettes de protection quand on n'avait plus les tenues complètes. Oui, oui.
Je voudrais dire aussi une chose, c'est que les masques ne sont pas nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif.
On se disait, non, mais ils se moquent de nous, quoi. Parce qu'en fait, oui, il n'y a plus besoin de porter de masque parce qu'en fait, il n'y a plus de masque. Donc, et encore une fois, il aurait peut-être fallu dire aux gens, en fait, on est en difficulté, on n'a plus de masque, on n'avait pas prévu. Je ne sais pas si les gens l'auraient entendu aussi, hein, mais ça les aurait peut-être plus aidés à digérer toutes les informations qu'ils ont prises pour des mensonges, en fait, de l'État. Et je pense qu'ils n'ont même pas voulu mentir, c'est qu'ils ne savaient pas, finalement.
On avait un gouvernement qui disait à nos patients...
Christian Lehmann.
Vous n'avez pas besoin de porter de masque, ça ne sert à rien.
Médecin.
Et que ce mensonge a été le mensonge originel qui a légitimé, si j'ose dire, une crainte et une méfiance vis-à-vis de ce qui était dit par les sachants, et qu'ensuite ça a posé des problèmes énormes, parce que ça a permis aux anti-Covid, qui n'y croyaient pas, puis ça a permis aux anti-vax, d'avoir un boulevard devant eux pour vendre leur buzz et leur sauce, parce que d'emblée, le gouvernement n'avait pas été crédible et parce qu'il nous avait menti.
Et on rejoint le point presse de Jérôme Salomon sur l'épidémie de Covid-19 en France.
Aujourd'hui, nous avons 25 233 cas confirmés par test PCR.
Et on rejoint le point presse de Jérôme Salomon.
Aujourd'hui, 11 539 personnes sont hospitalisées pour infection 2827 Covid. 227 cas graves, 59% entre 60 et 80 ans. C'est un nombre considérable, exceptionnel.
Durant ce confinement, désormais rythmée par les annonces officielles et le bilan sanitaire qui détaillait quotidiennement le nombre de nouvelles infections, de morts et d'entrées en réanimation, la population française a dû s'organiser. Faire ses courses au supermarché en passant devant des rayons non essentiels, barrés de rubalises rouges et blanches. Découvrir avec soulagement que la librairie de quartier est finalement autorisée à vendre des livres en click and collect. Regarder des vidéos drôles pour échapper au climat anxiogène et se rendre compte qu'on n'est pas du tout prêt pour l'école à la maison. On a demandé à Héloïse Langlois, qui travaillait pour les réseaux de l'éducation prioritaire de Paris, comment elle avait vécu ce passage soudain de l'école à la maison.
Je ne croyais pas une seule seconde que les écoles allaient fermer. C'était quand même du jamais vu. C'était violent, c'était fou. Mais le jour du confinement, il a fallu se débrouiller. Je crois que j'étais en réunion quelques jours avant avec une inspectrice qui nous expliquait que ça n'arriverait pas. Et on est tous partis de cette réunion en nous disant « ça n'arrivera pas ». On était convaincus de ça. Je l'ai appris comme tout le monde devant mon poste de télé à ce moment-là. Et du jour au lendemain, on s'est débrouillé assez mal. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et les ordres qu'on avait n'étaient pas encore clairs du tout. Mais pas du tout. Et c'était de la bricole. Pour tout et pour rien. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de construire des programmes éducatifs pour aider les enseignants, pour leur faciliter la vie. Mais même avec eux, j'avais des difficultés de communication. Donc c'était quel sens ça ? Voilà.
Il y a eu aussi, au cours du premier confinement, l'expérience de l'enfermement, la solitude, éventuellement, ou au contraire...
La promiscuité,
Une promiscuité insupportable, voire violente.
Oui, alors ça a été très compliqué. C'est-à-dire que...
Philippe Nuss.
Les gens ont été obligés de cohabiter comme dans un bateau, en fait. C'est la même chose. Et on peut pas s'échapper dans un bateau. Il y a la mer autour. Et là, c'était pareil, on peut pas s'échapper. Donc on avait effectivement le bruit des douches, le fait de se lever, de pas se lever, de... les problèmes d'argent qui apparaissaient. Ce qui était plus compliqué, c'était dans les systèmes familiaux qui étaient bloqués. C'était difficile, c'était des querelles. Chacun restait dans sa chambre. Il y avait des alcoolisations, il y avait beaucoup de troubles du sommeil, beaucoup de troubles de l'appétit, beaucoup de comportements alimentaires anormaux. Et donc, effectivement, c'était des huis clos assez incroyables. Et surtout, pas dissibles, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous, on téléphonait beaucoup aux patients qui étaient chez eux pour qu'ils aient un espace de parole. Et les gens qui travaillaient, notamment les gens de l'hôpital, c'était extrêmement important pour eux d'avoir une action où ils pouvaient échanger, faire autre chose que d'être dans le confinement en fait, dans le confinement entre soi. Alors il y a eu des choses merveilleuses aussi qui ont eu lieu, il y a des familles qui se sont reconnues, des gens qui sont partis à la campagne et qui ont apprécié d'autres valeurs. Voilà, il y a tout eu, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en médecine, nous, on a les choses qui vont pas bien. On a un biais de recrutement énorme. Voilà, il faut pas généraliser. Il y a plein de gens qui l'ont bien vécu, surtout la première fois. Après, la répétition, c'était quand même fatigant pour les gens.
En presse de Jérôme Salomon sur les
aujourd'hui, à 32 964 personnes sont hospitalisées en réanimation, âgées de moins de 30 ans. Par ailleurs, on observe l'essentiel des cas entre 60 et 80.
Je suis à la tête du système de santé d'Île-de-France.
Aurélien Rousseau.
Ce que je sais du Covid en mars, c'est qu'il va tuer massivement des personnes âgées. Voilà, c'est ce qu'on sait. Je me dis donc qu'il y a un département qui sera moins touché que les autres, qui est de très loin le plus jeune de la région Île-de-France, c'est la Seine-Saint-Denis. Parce qu'il y a beaucoup moins d'EHPAD. L'espérance de vie est beaucoup plus faible, il y a moins de personnes âgées. On peut me dire aujourd'hui, c'est très très bête comme analyse, c'était largement partagé. Quand les premiers chiffres arrivent de mortalité, on constate qu'il y a une surmortalité extrêmement forte en Seine-Saint-Denis. 450%. Ma première réaction, c'est celle de penser qu'il y a une erreur dans les chiffres. J'appelle le directeur général de l'INSEE. Je demande, est-ce qu'on peut refaire la totalité de la tuyauterie qui part des services municipaux qui enregistrent les décès jusqu'à l'agrégat que vous faites. Et en fait, on constate ce qui est maintenant une évidence, c'est qu'en fait, sont en train de crever en Seine-Saint-Denis des jeunes obèses issus de l'immigration. Voilà, c'est ça qui était en train de se passer. Et qu'ils étaient beaucoup plus victimes du Covid que les personnes âgées. Voilà. Et après, on retrouve des fondamentaux, inégalités sociales de santé, impact du logement sur la santé, sédentarité, rapport communautaire à la santé. Je tousse, je suis chauffeur Uber, je vais pas m'arrêter pour aller voir un médecin. D'ailleurs, il y a pas mal de médecins qui ont fermé leur cabinet. Et donc, on reconstitue et on met en place des politiques qui vont faire ça. Le mot « aller vert dans les quartiers populaires pour les tests, pour les vaccins, etc. », il naît à partir de ce moment-là. Mais a posteriori, je peux me dire, nous aurions dû comprendre beaucoup plus tôt, protéger différemment, etc. Sans doute, mais le a posteriori est vachement intéressant aussi. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans nos politiques publiques en matière de prévention? Aujourd'hui, je suis député. Quand je m'exprime pour dire un des enjeux majeurs, c'est de développer des politiques publiques de lutte contre l'obésité, on continue à me dire c'est sympa, mais c'est beaucoup moins important que les lits de réanimation. En fait, ma conviction, c'est que non. Voilà. Les gens, ils sont pas morts de pas avoir de lits de réa. Les lits de réa, on les a eus. Ils sont morts d'être gros. Voilà.
Quand on fait du SAMU, on est formé sur la médecine de catastrophe, hein, donc on a l'habitude de trier les malades. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Après, ce qui a été un peu difficile, c'est qu'en fait, on s'est vite rendu compte que le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui malheureusement décédaient en réanimation. Donc c'est pas un service comme les autres, la réanimation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, malheureusement, les personnes âgées qui avaient un Covid grave, qui nécessitait de l'oxygène, une oxygénorequérence qu'on pouvait, nous, en tant qu'urgentistes, apporter maximale. Ces gens-là, il n'y avait aucun bénéfice pour eux de les mettre en réanimation, puisqu'on savait que l'issue, malheureusement, allait être le décès, quoi. On savait que parfois, même les patients jeunes qui avaient un cancer, qui avaient une pathologie qui avait quand même un pronostic plutôt défavorable à court ou moyen terme, ceux-là, on n'allait peut-être pas les mettre en réanimation, en fait.
Du coup, vous faisiez quoi ?
Eh ben, on leur donnait les soins, ce qu'on appelle les soins maximales aux urgences, en salle d'hospitalisation, etc. On les rendait confortables et on se disait, ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, il y a eu des journées qui étaient catastrophiques, hein, pour nous, hein, où on voyait que des malades graves arriver et on savait qu'aucun n'allait être éligible à la réanimation, parce que de toute façon, ça n'allait... Enfin, c'est pas du tri qu'on fait, hein, c'est parce qu'on sait que ça va apporter... ça n'a aucune plus-value aux patients, en fait. Mais c'est très difficile à faire entendre aux familles et aux gens, hein, parce que les gens sont conscients aussi, hein, on leur parle. Hein. Donc ça a été très compliqué.
Hôpital Nord de Marseille, professeur Samir Hayesh.
Le principal traitement, dans un premier temps, c'était l'intubation.
C'est une suppléance d'organes. On supplée à la fonction respiratoire. En clair, les patients sont plus capables de respirer par eux-mêmes. Alors on a des dispositifs avant l'intubation, hein, on leur donne de l'oxygène par différents moyens. Mais très vite, surtout au début du Covid, par peur de diffuser le virus, eh ben on les intubait. Donc on les endormait, on les mettait sous respirateur artificiel. C'est pas vraiment un traitement, c'est une suppléance de la fonction respiratoire.
Et je me souviens d'avoir vu ça aussi, que les patients, vous deviez les coucher sur le ventre.
C'est un traitement qui a fait ses preuves dans les atteintes respiratoires. Et donc ça nous a amené à faire ce qu'on appelle des séances de décubitus ventral, où on prenait les patients et on les mettait... On se met à plusieurs, en général 6 ou 7. On retourne les patients. C'est plus ou moins lourd. L'obésité est un facteur de risque de Covid sévère. Donc parfois, on a des patients très, très lourds à tourner. Et quand on fait ça pour un ou deux patients sur une 15-20, c'est acceptable. Quand toute la réanimation doit être tournée tous les jours, ça peut devenir absolument dément en termes de charge de travail. Je pense que Sabine, qui est infirmière, elle peut en parler encore mieux que moi là-dessus, sur la charge de travail.
En effet, on avait jusqu'à 20 patients à retourner parfois par jour.
Sabine Valérin.
Et pour ce faire, d'ailleurs, on a même eu des équipes, notamment de chirurgiens qui n'opéraient pas à ce moment-là, puisque les blocs étaient bloqués, et qui sont venus nous aider. Et c'était les équipes décubitus ventral. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à l'heure à laquelle on donnait rendez-vous. Et on voyait arriver tout un tas de chirurgiens qui venaient nous aider en équipe à mobiliser ces patients. Et donc, c'était assez original pour nous de retrouver les chirurgiens dans cette position-là, à notre écoute, et pour une fois. Et voilà, ça a été vraiment un gros travail d'équipe quand même, parce que la charge était vraiment...
À l'époque, j'avais en charge le service de chirurgie orthopédique pédiatrique.
Jean-Luc Jouve.
Et j'avais la direction médicale de l'hôpital d'enfants de la Timone et de l'hôpital Nord. Et donc, moi, mon rôle n'a pas été un rôle de soignant des patients qui avaient le Covid, à l'inverse des services de réa ou des services de médecine adulte, puisque les enfants ont été très peu impactés par le Covid. Mon rôle a été surtout d'arriver à gérer le soutien que l'on a donné aux autres en déprogrammant massivement tous les patients qui pouvaient l'être, afin qu'on puisse faire de la place pour les gens qui avaient du Covid. Donc j'ai été un des artisans, un des grands ordonnateurs de la déprogrammation des patients qui n'en avaient pas un besoin urgent, avec tout ce que cela peut comporter de difficultés pour savoir qui on déprogramme, quand, combien de temps, on ne savait pas combien allait durer l'épidémie, etc. C'était un peu compliqué, oui.
Du coup, vous faites partie de ces chirurgiens qui ont été aidés en réa à retourner les patients ?
C'est ça. Le matin, on gérait les flux et les chiffres. On confirmait les déprogrammations du lendemain. Et puis ensuite, on allait donner un coup de main à la réa pour retourner les patients, pour aider. Puis, bon, on est médecin, il y a quand même certaines choses qu'on sait faire, quoi. Perfuser, déperfuser... faire des soins locaux sur des patients qui présentent des troubles trophiques parce que ça fait des jours et des jours qu'ils sont alités. Voilà, ça demande beaucoup de choses et surtout ça demandait beaucoup d'inertie parce qu'à chaque fois il fallait s'équiper, se protéger. Pour rentrer dans une réa, c'est pas simple. Donc tout le monde s'est polarisé sur le Covid, même les gens pour qui c'était une spécialité à l'opposé de leur quotidien.
Des maisons de retraite les plus touchées par l'épidémie.
24 mars 2020.
L'EHPAD Rothschild, à Paris, 16 morts et 81 résidents contaminés. Une vingtaine de soignants a également été testés positifs au Covid-19. Faut-il craindre le pire dans les maisons de retraite ? Une tragédie est-elle en train de se jouer à huis clos ? À travers les EHPAD de toute la France, l'épidémie a déjà fait des dizaines de morts. Dans cet établissement de Saint-Dizier...
Votre mère, elle a attrapé le coronavirus assez rapidement.
Oui, ils ont envoyé un courrier pour prévenir déjà qu'il y avait le Covid dans le
Marie-Andrée.
Dans la maison, enfin dans la structure, et qu'à ce moment-là, il y allait avoir un confinement, enfin c'est-à-dire que les gens allaient rester en chambre. Ils ont dit donc que les visites étaient évidemment interdites. À un moment, ils nous ont prévenu, donc c'était, je pense, à peu près 15 jours. Ça fait 3 semaines après le début du grand confinement, on va dire, après le 16 mars. Donc, ils nous ont informé qu'elle était touchée et que là, du coup, une visite était possible par jour et une personne par jour. Il y avait à la fois cette espèce de violence, en quelque sorte, de la situation où des gens étaient enfermés quand même dans ces maisons-là. Et puis, un sorte de calme apparent quand on arrive là, puisque effectivement, on traversait une ville morte, avec personne dans les rues, le printemps, enfin une espèce de contraste comme ça, complètement étrange. Nous avons juste pu y aller une fois, en fait, aller lui rendre visite, avec une sorte de petit équipement de sanitaire, enfin une sorte de combinaison, je sais plus, je crois que c'est une sorte de blouse, enfin une charlotte, enfin voilà, un truc un petit peu... Et quand on est arrivé là, on savait vraiment, enfin, que son cas était très avancé, enfin, qu'ils étaient très, très inquiets. Et donc, ça a été la dernière fois qu'on a vu notre mère, parce qu'elle est décédée dans la nuit. Ça a été très, 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 très rapide.
Vous avez pu la toucher ?
Alors, en fait, moi, j'étais seule. Donc, ils nous disent de ne pas la toucher, mais évidemment, on la touche. Enfin, voilà. Donc, on se touche, c'est normal. Mais oui, les règles, c'était ne pas toucher, ne pas approcher, évidemment. Toutes des règles d'hygiène, de se protéger avec des gants, avec ci, avec tout ça, voilà. « Notre maman est décédée dans la nuit, et donc le lendemain, ils nous ont prévenus. Mais on n'a jamais revu notre mère, en fait. Il n'y a jamais plus... Le corps des personnes qui décédaient dans ces institutions-là était ensuite géré, on va dire, par un... Il y avait les pompes funèbres, les médecins, je ne sais pas, en fait, tout un processus... mais il n'était plus rendu aux familles, en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait plus accès par peur de la contagion. Hein. Tout ça, évidemment, c'était ces raisons-là. Mais dans la réalité, c'est ça qui se passait, en fait.
Vous avez quand même réussi, Marie-Andrieux, à organiser un enterrement, un vrai enterrement,
oui.
dans son village natal, en plus.
Alors, on a un peu l'impression d'organiser quelque chose d'un peu énorme, on va dire, dans le sens où il faut prévenir le maire. Je me souviens de coups de fil avec le maire, avec mon frère avait appelé la gendarmerie, bon, évidemment le prêtre, bon, enfin, ça c'est normal. Il y avait ce côté où on sentait que c'était quelque chose de permis, mais dans un cadre très réglementé et où il fallait du coup obtenir, si ce n'est l'autorisation, du moins rassurer les gens sur place de comment on allait fonctionner. Voilà. Tout le monde était quand même dans des dispositions en se disant il faut pas trop s'approcher, il faut rester dehors tout le temps. Il faisait extrêmement beau, donc ça a facilité les choses. C'était un moment de recueillement qui était assez beau aussi de ce fait-là, dans un où il y avait presque un pays en deuil aussi, puisqu'on a traversé la France en voiture, enfin comme ça, dans une France déserte, en fait, avec des autoroutes tout à fait désertes, où il y a juste les gens qu'on croisait, c'était des policiers, quoi. Enfin, on s'est plusieurs fois fait contrôler pour montrer une attestation. Enfin, voilà, il fallait dire pourquoi on était en voiture, pourquoi, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on faisait. Enfin, mais il y avait ce côté assez étrange, oui, de presque... On avait presque l'impression que oui, le pays était en deuil, en fait, aussi. Je dirais que ça, c'était presque la chose la plus... belle de mon point de vue, où c'est des moments où on a envie d'être dans un recueillement, et en fait là, l'environnement entier était dans cet état-là.
Sur tout le territoire, les contrôles se multiplient, mais sont-ils vraiment suffisants ?
22 mars 2020.
Cette nuit, l'Assemblée nationale a durci les sanctions pour les contrevenants. 135 euros d'amende en cas de violation des règles, qui passeront à une amende de 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours, et jusqu'à 3700 euros et 6 mois de prison au bout de 4 violations dans les 30 jours. Mais certaines villes ont déjà pris des mesures supplémentaires et instaurent des couvre-feux. À Béziers, Perpignan, Charleville-Mézières ou encore à Nice, où il est désormais interdit de sortir de 23h à 4h.
Est-ce que vous avez des statistiques justement sur le nombre de contrôles pour les pays qui avaient des attestations entre la France, l'Italie, la Grèce, les pays qui ont le plus contrôlé ou qui ont donné le plus d'amendes?
En France, mais dans les autres pays également, on n'en a qu'une idée très vague.
Nicolas Mariot.
Parce que le ministre de l'Intérieur de l'époque a communiqué en donnant le chiffre de 21 millions de contrôles. Ce qui est considérable hein, en France. 21 millions de contrôles en 55 jours. Bon, il faut se rendre compte de ce que ça peut représenter. Pour 1,1 million d'amendes en France.
Et ce nombre d'amendes, il varie aussi énormément d'une région à l'autre, je dirais en France.
Ah, en France, oui. Il y a des logiques très différentes de surveillance et de punition. Il y a aussi des départements qui vont peut-être moins contrôler, mais en revanche, beaucoup plus verbaliser. Et ces départements qui verbalisent énormément, ce sont notamment les départements où il y a beaucoup de grands ensembles et où on peut penser notamment que la police a profité du moment, puisque le simple fait d'être en extérieur était considéré comme un délit, quelque chose
potentiel.
D'anormal, un délit potentiel. Voilà. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils ne peuvent pas faire normalement, au quotidien, en période ordinaire, c'est-à-dire contrôler toute personne qui est en extérieur au seul motif qu'elle est dehors, justement.
La Seine-Saint-Denis aussi, il y a eu beaucoup de verbalisation.
Et en Seine-Saint-Denis, beaucoup de verbalisation, relativement peu de contrôle.
Et Mayotte ?
Mayotte énormément. J'ai oublié de parler des dom-toms. Là, c'est un cas très intéressant. En général, en Outre-mer, il y a eu beaucoup de contrôles et surtout beaucoup, beaucoup de verbalisations, notamment à Mayotte. Et c'est pas sans incidence parce que si on rapporte le montant de l'amende, dont vous vous souvenez que c'est pendant le confinement qu'il est passé de mémoire 38 euros pour une infraction de quatrième catégorie à 135 euros comme il l'est actuellement. Et évidemment, on n'est pas revenu en arrière. 135 euros à Mayotte, en rapport du niveau de vie, ça représente 700 euros par amende. 700 euros. Donc, effectivement, il y a eu des inégalités de traitement très marquées selon le département dans lequel on vivait au regard de la coercition d'État.
Dans les airs, avec cet hélicoptère à Limoges, impossible pour les promeneurs d'échapper à la surveillance des gendarmes. Comme près de Dijon, avec ce drone qui survole un marché. Sur tout le territoire, les contrôles se multiplient.
J'ai trouvé emmerdant
Christian Lehmann.
L'espèce d'infantilisation des gens. Du style, vous pouvez pas aller marcher sur la plage sans masque. Mais c'est complètement con! Il n'y avait en Chine aucun signe d'infection d'un patient à un autre en dehors d'un lieu clos. Donc, ok, si les gens marchent dans la rue et qu'ils sont proches les uns des autres, ça peut arriver. Mais des gens qui marchent sur la plage ne vont pas s'infecter. Donc, il y avait des flics sur les plages qui allaient dresser des contraventions à deux personnes qui étaient seules sur 100 mètres carrés, éloignées l'un et l'autre de... Voilà, il y avait une espèce de... Oui, une vraie infantilisation des gens. Et le problème, c'est quand vous faites ça, bah vous perdez la confiance de la population, parce qu'elle se dit que vous vous moquez du monde.
L'appareil peut diffuser un message, ce que moi je vais pouvoir dicter à l'appareil. Ici la gendarmerie, en période de confinement, veuillez rester chez vous. L'avantage de ça, ça va vraiment être d'éviter le contact maximum entre les personnes et nous-mêmes, pour notre santé, pour la santé des personnes, et vraiment effectuer cette prévention-là.
C'est la première fois qu'en France, des drones ont été utilisés pour surveiller la population dans l'intégralité des départements métropolitains. On l'a vérifié. Et c'est aussi le moment où le ministère de l'Intérieur a repassé une très grande commande de 400 drones supplémentaires pour équiper les forces de l'ordre. Donc de ce point de vue-là, ça a eu un effet très fort. Et effectivement, ils ont utilisé des hélicoptères, même avec caméras infrarouges, pour pouvoir essayer de prendre les gens qui étaient dehors la nuit, alors qu'ils ne devaient pas y être, etc., etc. Notamment, évidemment, pour surveiller les très grands espaces naturels. Alors, ils ont essayé de mobiliser tout le monde, hein, l'ONF, les fonctionnaires de l'Office de la biodiversité, les gardes-pêche, tout ce que vous voulez, pour essayer de surveiller les espaces naturels, les campagnes, qui sont très vastes. Mais bon, c'est très compliqué. Il y a plein d'endroits où les gens pouvaient, malgré tout, échapper à cette surveillance.
À compter de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 euros à chaque sortie.
C'est pas une mauvaise attitude.
Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements.
Je n'ai pas une mauvaise attitude.
Madame, regardez ce que vous achetez.
Oui, je vois bien.
Vous prévoyez une gastro ou quoi?
Non.
Bon, bah alors. Allez me chercher votre attestation dans le véhicule, s'il vous plaît.
Je me souviens que dans les premières semaines du confinement, il y avait plein de reportages de personnes
énormément
qui étaient interpellées. Je me souviens d'une scène incroyable où une femme a acheté des bouteilles de Coca-Cola et elle est verbalisée parce qu'on lui explique que le Coca-Cola, c'est pas un achat essentiel.
Vous ne pouvez pas acheter 6 bouteilles de Coca, venir seulement pour acheter 6 bouteilles de Coca en même temps, quoi. Voilà, exactement. Et le gendarme lui dit même, mais vous prévoyez d'avoir une gastro. Donc c'est l'époque où les forces de l'ordre se sont lancées dans cette espèce d'attitude étrange où ils donnaient des conseils de comportement aux gens. Et on a eu, parfois dans la presse la plus locale du fin fond des Pyrénées ou de je ne sais où, plein de petites histoires du confinement comme ça, où on verbalise tel jeune parce qu'il est dehors en tongs. Et que c'est pas censé être une sortie de...
Ah oui, il devait faire du sport.
Il devait faire du sport, en l'occurrence, il était en tongs, donc c'était pas bien. Le confinement, ça a été peut-être moins une expérience, enfin, ou autant une expérience d'enfermement chez soi qu'une expérience d'expulsion du dehors. Ils ont cherché à vider le dehors de toute présence humaine.
Je dois sortir aujourd'hui pour faire les courses. Comme je l'aurais oublié, je peux pas aller.
I'll offer their breath, longest to live. And for the Becky, only
vintage. Au terme de ces 10 premiers jours de confinement, il est clair que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique.
27 mars 2020.
Elle a submergé le Grand Est depuis plusieurs jours. Elle arrive en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur continueront à s'appliquer. Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige. Vous savez que le Conseil scientifique évalue à au moins 6 semaines au global la période totale de confinement. Il est encore trop tôt pour le savoir avec certitude. C'est la raison pour laquelle j'annonce cette décision.
Ce premier confinement s'est plutôt globalement bien passé et a été bien ressenti. Alors bien sûr, on ne ressent pas la même chose si on habite le 7e arrondissement ou si on habite le 9-3 et la banlieue nord de Marseille. Et les disparités en termes de cet accès à la santé sont réapparues et n'ont pas été aggravées par le Covid. Hein. Je rappelle qu'avant le Covid, il y a une différence de durée de survie en France de 8,5 ans entre le sud du RER et le nord du RER. Hein, nord-sud à Paris. Alors, vous habitez Sceaux, vous avez 8,5 ans de survie par rapport à quelqu'un qui habite le 9-3. Hein. Donc c'est avant le Covid. Mais néanmoins, ça a été évidemment plus dur pour les populations quand vous aviez 4 enfants et que vous étiez dans 2 pièces dans le 9-3, dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Puis il y a beaucoup de gens qui sont partis, et finalement, le premier confinement n'a pas été si mal vécu que ça.
Puis si vous me permettez, il y a encore un élément très important à prendre en compte dès qu'on parle d'inégalités ou de prise en compte des inégalités, c'est qu'à partir du moment où on différencie les risques et qu'on le fait de manière explicite, en l'objectivant, en l'assumant, on expose ceux que l'on souhaite éventuellement protéger à des risques de stigmatisation. Et on va identifier certaines personnes comme étant dans des situations plus problématiques que d'autres, ayant des caractéristiques dans un contexte épidémique où le virus circule partout, donc d'être un peu plus dans une position un peu plus délicate que d'autres. C'est des choses qu'on a vues très vite, hein, dès le début de l'épidémie, si vous vous souvenez. Voilà, c'est un virus qui vient de Chine. Est-ce que c'est pas les Chinois? Est-ce que c'est pas les Asiatiques? Est-ce que c'est un virus asiatique? Vous vous souvenez toute la phraséologie du président Trump sur le virus chinois, avec une insistance très très lourde, avec des enjeux géopolitiques qui étaient sous-jacents, mais avec des formes aussi de stigmatisation de certaines populations. Et les inégalités dont on parle, c'était pas seulement des inégalités d'âge. C'était des inégalités de pathologie, c'était des inégalités d'exposition au risque dans certaines zones de la population, dans le 93, dans les banlieues, où il y avait aussi une dimension ethno-raciale qui était enseignée. Voilà, de quoi nous n'aurions-nous pas été accusés si on avait identifié les populations à risque comme étant plutôt relevant de tel ou tel type d'appartenance plutôt que d'autres, etc. Par exemple, ces questions-là sont posées de manière assez explicite à un moment donné sur les gens du voyage, par exemple, y compris dans certains territoires qui commençaient à être très stigmatisés au moment où dans des enterrements en particulier il y avait un brassage de population, une contamination, etc. Donc voilà, donc l'identification de sous-populations, de risques spécifiques, etc. peut assez vite, dans ce type de contexte-là où la méfiance est assez importante et pas seulement vis-à-vis des autorités, une méfiance aussi un peu diffuse, hein, les uns vis-à-vis des autres, peut assez vite mal tourner en réalité. Hein. Donc voilà, donc il faut aussi prendre en compte ce risque de stigmatisation qu'on a vu dans d'autres épidémies. Sur le sida avec d'autres types de variables, etc. C'est aussi ce qui rend assez difficile la définition d'une action publique en temps réel sur ces questions d'inégalité.
On a besoin de chacun pour motiver les infirmiers, les infirmières.
Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps.
28 avril 2020.
Mais comme nous avons réussi le confinement ensemble, nous allons réussir ensemble le déconfinement. Ce sera notre prochain défi et nous allons y arriver.
D'une certaine façon, par exemple, si on regarde en France, la mesure de confinement, ça a figé la situation là où ça en était. C'est-à-dire que ça a eu un impact assez fort. Il y a 3 équipes qui ont fait des modèles pour essayer d'estimer l'impact que ça avait eu sur le nombre d'hospitalisations. 3 équipes en France.
Dominique Costaliola, épidémiologiste.
Et les 3 trouvent à peu près le même ordre de grandeur de l'impact, qui est une diminution de 78% du nombre de personnes hospitalisées après la mesure de confinement, disons sur le premier confinement, l'impact du premier confinement. À l'époque, finalement, il y avait surtout l'Est de la France et la région parisienne qui étaient très touchées et d'autres régions qui l'avaient très très peu été. Et ça a figé pendant cette période-là, le fait que ce soit concentré dans ces zones-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de contamination, mais on les a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup diminués. Mais il faut beaucoup de confiance entre les politiques et les scientifiques pour accepter d'écouter ce que disent les scientifiques, qu'on a intérêt à agir tôt, alors qu'il n'y a rien, entre guillemets, et qu'on va être accusé de surréagir. D'autant plus qu'après, on ne verra rien, puisque la situation se passera bien. Donc on se fera accuser d'avoir agi alors que ça n'avait aucune utilité. Alors il faut qu'il y ait beaucoup de confiance entre les scientifiques et les politiques, et aussi beaucoup de confiance entre la population et ses politiques. Et si on est dans un pays où tout ça n'existe pas, c'est pas facile au début.
T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures. Pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite.
Merci à Céline Lejeune, François Crémieux, Nicolas Mario, Daniel Benamouzig, Aurélien Rousseau, Jean-François Delfrécy, Raphaël Baquet, Dominique Costaliola, Marie Andrieux, Christian Lehmann, Philippe Nuss, Samy Rayesh, Jean-Luc Jouve, Sabine Valera, Héloïse Langlois et Arnaud Fontanet.
J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe, mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus, j'avais pas marqué l'heure sur mon attestation.
Merci également à Caroline Perragu, de l'APHM. Prise de son Michael Simon et Jean-Benoît Tétu. Mixage Benjamin Vignal. Documentation Anne-Lise Signoret. Archivina Arnaud Plançon. Chargée de programme, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin.
À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement.
C'était Covid-19, une pandémie sans fin, le confinement.
Moi, je leur tire mon chapeau si avec tout ça, ils tiennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.
Un documentaire de Christelle Le Polothèque, réalisé par Véronique Samouilov.